commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un attentat en Syrie fait au moins 26 morts et de nombreux blessés. L'Allemagne n'a toujours pas de gouvernement. Les tractations vont bon train. Et en sport, Michael Matthews a remporté hier soir la médaille du cycliste de l'année. Nous débutons donc ce journal en Syrie. Un attentat fait 26 morts, au moins, attentat attribué à Daesh. L'attentat à la voiture piégée visait un rassemblement de déplacés dans la province de Deir ez-Zor, c'est dans l'est du pays. Sami Bourhelifa.
Vendredi 13h30, fin de la grande prière. Le village de Faraj, près de Deir ez-Zor. Plusieurs dizaines de civils font route vers le nord et derrière eux, plus au sud, l'une des dernières batailles contre le groupe État islamique en Syrie est engagée. Depuis plusieurs jours, les habitants de la vallée de l'Euphrate abandonnent tout et fuient les combats, souvent à pied, parfois entassés dans des camions. Leur région est désormais le seul réduit djihadiste du pays. Après avoir perdu ses grandes villes et Raqqa, sa capitale autoproclamée, l'organisation État islamique s'est retranché dans cette région du sud-est de la Syrie, frontalière avec l'Irak. Les forces anti-djihadistes avaient une crainte, l'EI, sans son territoire, multipliera les attentats. Ce vendredi, un djihadiste au volant de son véhicule piégé passe à l'action. Il est pourtant assez éloigné des lignes de front mais mène son attaque jusqu'au bout. Sa charge est déclenchée au milieu de villageois. Le bilan est meurtrier.
Donc Sami Bourhelifa pour RFI. Chad Hariri va être reçu aujourd'hui au palais de l'Élysée, à Paris donc, sur l'invitation d'Emmanuel Macron. Il sera reçu en tant que Premier ministre du Liban, sa démission n'ayant toujours pas été entérinée par le Parlement local. Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, a fait sa première apparition publique depuis son assignation à résidence cette semaine. Il est apparu lors d'une remise, une cérémonie de remise de diplôme à l'université de la capitale Harare. Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, s'est prononcé sur la situation au Zimbabwe. C'était lors d'un sommet sur l'Afrique aux États-Unis. On l'écoute.
Je sais que nous suivons tous avec attention la situation au Zimbabwe et je sais que chacun d'entre vous s'en inquiète. Nous sommes aussi préoccupés. Nous devrions tous travailler ensemble pour un retour rapide à un pouvoir civil dans ce pays conformément à sa constitution. Le Zimbabwe a l'opportunité de s'engager sur une nouvelle voie, une voie qui doit inclure des élections démocratiques et le respect des droits de l'homme. En fin de compte, c'est le peuple du Zimbabwe qui doit choisir son propre gouvernement. Au cours de nos discussions aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir comment les aider de manière concrète à mener cette transition.
Les propos traduits de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain. De leur côté, le très puissant groupe des anciens combattants du Zimbabwe ont fait entendre leur voix. Pour eux, c'est clair, Robert Mugabe doit partir, lui et sa femme doivent donc quitter le territoire, quitter le pouvoir. On écoute Chris Mutsawanga, le porte-parole de l'association.
And the madness, sheer madness of his wife who are trying to become a president of the republic and create a dynasty. The Zimbabwean people are up to here. They better take note. We don't want to be responsible for what the anger of the crowd can do. But what you are saying is we listen to their message and we want to channel it in a peaceful and organized manner, no violence.
Et c'était Chris Mutsuwanga, le porte-parole de l'Association des anciens combattants du Zimbabwe. 13h04, l'Australie. En Australie maintenant, l'association du personnel de santé est unanime. Le gouvernement doit lever le voile sur l'état de santé des demandeurs d'asile sur Manus Island. On écoute le docteur Michael Gannon, le président de l'AMAR, Australian Medical Association.
The principles here are crystal clear. We very simply need to have a transparent process about the accommodation and medical care arrangements in place for the men on Manus Island. It's in everyone's interest that transparency is provided by government, and we're calling on them to act.
Le docteur Michael Gannon, le président donc de l'AMA, l'Australian Medical Association, propos renforcés par la coalition pour les réfugiés. On écoute le porte-parole de cette association, Ian Rintoul.
Very difficult, very, very, very desperate circumstances inside the detention centre. So we want the medical attention, we need the observers, but most of all, we need the siege to be lifted. We need the power restored, we need water restored, we need the men to be brought food.
Voilà, donc Ian Rintou, le porte-parole de la coalition pour les réfugiés. 13h06, direction l'Allemagne maintenant, et toujours pas d'accord sur la formation d'une coalition gouvernementale. Les discussions devaient s'achever hier soir, mais finalement les différents partis se sont quittés sans accord. Résultat, le pays n'a toujours pas de gouvernement. La chancelière allemande Angela Merkel recevra chacun des représentants dès demain, un marathon à haut risque, comme nous l'explique Hans Stark, chercheur à l'IFRI.
Chaque parti a beaucoup à perdre. Les électeurs du FDP ont voté pour le Parti libéral pour qu'il mette en œuvre une politique fiscale très généreuse pour les revenus élevés. Les électeurs des Verts ont voté pour ce parti pour qu'il fasse le nécessaire sur le plan de la protection du climat et j'en passe. Et si tous ces partis entrent dans un gouvernement où les promesses d'hier ne valent plus rien, ils vont payer les conséquences aux prochaines élections. Donc ils seront, entre guillemets, sanctionnés par leur électorat qui, ou bien votera pour un autre parti, ou bien s'abstiendra. Donc les petits partis jouent gros. Il ne faut pas oublier que le FDP, le Parti libéral qui est revenu au Parlement avec 10%, avait disparu de la surface entre 2013 et 2017. Il avait disparu du Parlement allemand. Et donc c'est un sort qui pourrait se reproduire. Et c'est la raison pour laquelle les petits partis sont très très réticents de s'engager trop loin sur des positions qui ne sont pas les leurs. Et nous avons en fait un troisième parti qui est la CSU, qui lui aussi joue gros, puisqu'il y a des élections régionales l'année prochaine en Bavière, sur beaucoup de points, notamment l'immigration, question des réfugiés. Ils ne veulent pas faire des concessions.
C'était Hans Stark, chercheur à l'IFRI, toujours en Europe, et les négociations sur le Brexit. Et le président du Conseil, Donald Tusk, qui demande à la Grande-Bretagne de faire plus pour accélérer les négociations. On l'écoute.
I made it very clear to the Prime Minister May that this progress needs to happen at the beginning of December, at the latest. If there is no sufficient progress by then, I will not be in a position to propose new guidelines on transition and the future relationship at the December European Council.
C'était le président du Conseil européen, Donald Tusk. La situation en Espagne maintenant, Mariano Rajoy a affirmé hier soir la confiance qu'il a envers la justice belge. Cette dernière examinait hier le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de l'ancien dirigeant catalan, Carles Puigdemont, et de ses quatre anciens ministres. Compte rendu et point sur la situation avec Pierre Benazet.
L'audience de la Chambre du Conseil n'aura duré qu'un peu plus d'une heure ce vendredi en présence de Carles Puigdemont et des quatre anciens ministres catalans. Cette courte audience a en fait été essentiellement consacrée aux réquisitions du parquet au sujet du mandat d'arrêt européen émis par la justice espagnole à l'encontre des cinq hommes. Le procureur du roi a requis l'exécution pure et simple de son mandat tel qu'il a été envoyé par l'audience nationale de Madrid, à savoir donc avec les trois chefs d'accusation que sont la corruption ou malversation, la sédition et la rébellion. Les avocats de Carles Puigdemont et de ses quatre co-accusés contestent ces chefs d'accusation et l'ensemble d'un mandat d'arrêt européen qu'ils considèrent relever du procès politique. L'audience a été suspendue en milieu d'après-midi et la défense devra plaider lors de la reprise à la prochaine session fixée au 4 décembre. Entre-temps, Carles Puigdemont et les quatre conseillers catalans restent donc libres, soumis uniquement aux conditions fixées lors de leur comparution initiale du 5 novembre, résider en Belgique, ne pas quitter le territoire du Royaume et se présenter en personne aux convocations des autorités.
Un reportage de Pierre Benazet pour RFI. 13h09 en économie maintenant. Les investissements chinois à travers le monde ont baissé cette année et c'est le résultat de la politique du pays pour ralentir la fuite des capitaux. Les détails avec Francine Quentin.
Depuis janvier, les investissements chinois à l'étranger ont reculé de 40% à 86 milliards de dollars, alors qu'en 2016, ils étaient en forte progression et atteignaient 170 milliards de dollars. C'est le résultat de la lutte engagée par le gouvernement contre les investissements massifs des grands groupes chinois dans le sport, l'hôtellerie et le divertissement, des opérations jugées irrationnelles et aussi dangereuses, en raison du fort endettement de ces groupes tels Wanda ou Fosun, qui font peser un risque sur la valeur du yuan. Les gros investissements sont donc désormais soumis à autorisation et seuls ceux qui concernent les services, l'industrie ou la vente de détail ne rencontrent aucun obstacle. Et même les investissements chinois dans les pays concernés par le vaste programme des nouvelles routes de la soie sont vivement encouragés par les autorités. Ces mises de fonds dans les infrastructures des pays asiatiques voisins de la Chine commencent à monter en puissance. Ils représentent actuellement 13% du total des investissements chinois à l'étranger.
C'était donc Francine Quentin pour RFI. En sport, hier à Melbourne, Michael Matthews a remporté la médaille du meilleur cycliste de l'année, décernée par la Fédération Australian Cycling Australia. Il a également remporté le titre de meilleur cycliste sur route et la médaille du choix du public. Écoutez sa réaction depuis Monaco, où il s'entraîne et y réside.
To receive the Oppie and the People's Choice Award is it's a huge honour to me, and to be amongst the biggest names in cycling, it's amazing. You see so many of the biggest cyclists of Australia have won this award, so it was really a dream come true, and especially for it to happen this early in my career, and for such a highlight for me in my cycling career this year to come out at the end of the year to win, Cyclists of the Year, the People's Choice and the Oppie, it just puts the cherry on top of the cake, and I just want to thank Cycling Australia and AIS for supporting me all this way and helping me to become a professional cyclist and be able to achieve my dreams.
Donc Michael Matthews qui a reçu cette médaille de meilleur cycliste de l'année. Coup d'œil météo pour le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 27 degrés. Hobart, 27 également. Canberra, 21. Sydney, 24. Brisbane, 23. Cairns, 31. Et Darwin, 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un attentat en Syrie a fait au moins 26 morts et de nombreux blessés. L'Allemagne n'a toujours pas de gouvernement. Les transactions sont en cours. Et en sport, on vient de l'entendre, Michael Matthews qui a remporté la médaille de meilleur cycliste de l'année. 13h12, courte pause. Et on a une page sportive tout de suite après ça avec une kayakiste franco-australienne.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench